Bonjour chères auditrices et auditeurs, aujourd'hui nous sommes de nouveau avec VNE pour notre émission Écolo Quoi. Nous recevons aujourd'hui Élise qui va nous parler d'un sujet très important et qui est tout à fait d'époque et d'actualité, l'agri-photovoltaïsme. Bonjour Élise, je te laisse déjà te présenter.
Bonjour, je m'appelle Élise, donc je fais partie de l'association Vosges Nature Environnement. Je suis là effectivement pour parler d'agrivoltaïsme, qui est un sujet que j'ai découvert récemment, mais qui était très intéressant.
Voilà, très intéressant. Alors, moi qui suis lambda auditrice, qu'est-ce que c'est que... Bon, alors je sais bien, agri-photovoltaïsme.
Oui, c'est un peu...
C'est-à-dire sur des toits de ferme.
Mais pas que.
Mais pas que. Et pour produire de l'électricité. Je te laisse nous expliquer exactement.
Alors, en fait, l'agrivoltaïsme, ça va désigner toutes les installations donc photovoltaïques, donc de panneaux, destinées à utiliser l'énergie du soleil pour produire de l'énergie électrique et qui sont installées sur des parcelles agricoles.
Ah, pas automatiquement sur des toits.
Non.
Ah, d'accord.
Là, on parle aussi de parcelles agricoles, donc des champs cultivés, des pâtures, etc. Voilà, l'agrivoltaïsme, c'est ça. Sachant qu'on a, ça c'est une définition générale, puisque beaucoup de projets se montent ces dernières années, France a légiféré sur ce sujet en particulier, et on a vraiment du coup une définition dans la législation française depuis 2023.
Qui est une
installation photovoltaïque, agrivoltaïque, c'est une installation qui doit cocher certaines cases en fait. Elle doit à la fois améliorer le potentiel et l'impact agronomique de la culture ou de l'élevage qui se situe en dessous. Elle doit permettre une adaptation au changement climatique. Donc c'est souvent le cas de l'ombre qui est formé par les panneaux. Du coup, quand on pose des panneaux dans un champ, ça fait de l'ombre. Donc ça peut, par extension, servir à l'adaptation au changement climatique. Sur l'été, les grosses chaleurs, ça peut faire de l'ombre pour les cultures, pour les animaux, par exemple. C'est un exemple qui est souvent donné. Ça doit fournir une protection contre les aléas, donc le mauvais temps, la grêle, les pluies, très fortes pluies, donc ça peut protéger les cultures ou les animaux de cela. Et ça permet aussi une amélioration du bien-être animal. Voilà, ça doit cocher ces cases-là. Donc, s'il y a des animaux en dessous, ça permet l'amélioration de leur bien-être.
Oui, je suis un petit peu réticente quand j'entends ça, parce que... Alors, juste un détail, peut-être tu ne vas pas savoir me répondre, mais c'est quelque chose qu'il faudra approfondir. Ouais. Ça ne dégage pas de la chaleur, les panneaux photovoltaïques?
Alors, en ce qui concerne la température en surface, tu veux dire les panneaux? Ça, j'ai pas de chiffres précis. Autant je peux dire qu'il y a d'autres problèmes à soulever concernant ces installations.
D'accord.
Mais c'est vrai que la température,
c'est intéressant.
C'est une autre question que je vais pouvoir me poser. Voilà,
oui.
Je vais pouvoir continuer mes recherches.
Une petite piste, parce qu'il paraîtrait qu'aux États-Unis, ils en reviennent justement à cause de ça. Mais une petite piste par rapport à ça.
Oui, et que ça diminuerait le rendement, c'est ça, en même temps.
Je sais pas, mais qu'il y a un os dans le pâté à ce niveau-là. Je comprends bien. Donc, tu as terminé de nous dire, mais en fait, ça sert aussi à fabriquer de l'électricité. Quand même.
C'est ça.
Avant de protéger les animaux, les cultures contre la grêle et tout.
Bien sûr. Le but, donc un des avantages qui est présenté par que ce soit les énergéticiens ou la FNSEA par exemple, qui est aussi très friande de ce genre de projet, c'est déjà un complément de revenu pour les agriculteurs et agricultrices. Bon, il y a cet argument-là financier, parce que forcément, le propriétaire du terrain va toucher des revenus de la production d'électricité. Il y a aussi donc, l'argument, comme je disais, ça fait de l'ombre, donc ça peut même potentiellement, surtout l'été, protéger les cultures et améliorer les rendements, du coup, que ce soit sur les céréales ou toute culture qui se trouve en dessous. L'argument présenté souvent... en faveur, c'est qu'il y a un rendement plus important après la pose des panneaux qu'avant. Il y a aussi donc le fameux argument du bien-être animal, encore une fois avec l'ombre, les animaux sont à l'ombre.
Est-ce que l'herbe pousse sous l'ombre?
Alors, ça dépend à quelle saison on fait les analyses. C'est justement un problème qui a été soulevé, c'est que les analyses sur lesquelles se sont basées, donc que ce soit les installateurs ou les grands syndicats agricoles, se sont basés sur des analyses qui ont été un peu restreintes, c'est-à-dire qu'ils se sont concentrés sur l'été, où on va avoir des gros épisodes de canicule, comme on a de nos jours. Donc forcément, sur une parcelle qui est à l'ombre, l'herbe va être plus belle que sur une parcelle en plein soleil qui est à 50-60 degrés.
Mais il y a, alors, c'est technique, mais il n'y a pas des petits bouts de soleil qui passent entre deux, ou c'est tout le monde qui est... tous les panneaux qui sont les uns
contre
les autres?
Alors, ça dépend de l'espacement. Il y a quand même des espacements minimum, en général, pour que les engins puissent passer entre les rangées, par exemple. Donc, il y a quand même des espacements, c'est entre 8 et 12 mètres, en général, entre les piliers qui soutiennent les panneaux.
D'accord.
Donc, il y a un peu de soleil qui tape, mais pas beaucoup. Et avec le fait qu'il tourne, c'est sûr que la parcelle reste ombragée bien davantage qu'une parcelle nue, c'est sûr. Mais si on étudie, par exemple, comme ça a été fait ces derniers temps, sur une période plus longue, par exemple sur 2 ans, là, on se rend compte que les parcelles qui sont sous des panneaux photovoltaïques, sur le reste de l'année, ont beaucoup moins d'herbes, ont beaucoup moins de pousses de végétaux. La santé des sols est considérablement dégradée. Je ne parle même pas des animaux sauvages, de la biodiversité. Ça a vraiment des impacts.
De l'union d'un milieu et des êtres qui l'abritent, voici l'écosystème où la faune et la flore tissent des liens vitaux, des mariages insolites en un réseau trophique à la vie, à la mort. La biodiversité, c'est la vie en couleur, un arc-en-ciel d'espèces, un grand bouquet de fleurs, où les écosystèmes s'épanouissent en chœur, formant une harmonie, tel un hymne enchanteur. Les rivières et les bois brissent de mille sons, mille espèces différentes vibrent-elles un frisson. Cette diversité porte un bien joli nom, richesse spécifique célébrée en chanson. La biodiversité, c'est la vie en couleur, un arc-en-ciel d'espèces, un grand bouquet de fleurs, où les écosystèmes s'épanouissent en chœur, formant une harmonie, tel un hymne enchanteur. Au sein de chaque espèce, les gènes se déclinent en allèles variées que les mutations dessinent. Sur l'ADN vibrant, une palette chromatique, pluralité des formes, diversité génétique. La biodiversité, c'est la vie en couleur, un arc-en-ciel d'espèces, un grand bouquet de fleurs, où les écosystèmes s'épanouissent en chœur, formant une harmonie, c'est un hymne enchanteur.
C'est nouveau, cet agrivoltaïsme?
Alors, ça a été... C'est relativement nouveau, en fait, ça explose ces dernières années. Ça a été théorisé dans les années 80, et puis les premières vraies installations dans le monde, ça s'est fait au début des années 2000, mais là, c'est vraiment depuis 15-20 ans que sur la France, on en installe, et sachant qu'il y a une grosse augmentation depuis 2021. D'où le fait qu'on ait légiféré aussi, parce que forcément, il y a un développement sur une technique comme ça. Il faut quand même... c'est toujours bien de définir quelques règles de base pour pas que ça soit objet de dérive.
D'accord, mais comment on peut voir ce genre de projet en point positif, pour être positif, commencer par là, et en point négatif?
Alors, les points positifs, c'est ceux que j'ai donnés... qui sont en général communiqués par les installateurs et par les porteurs de projets qui mentionnent à la fois à cause du changement climatique, les gros épisodes de chaleur qu'on a de nos jours sont détrimentaires, c'est sûr, aux cultures, aux animaux, on est d'accord. Donc ça fait de l'ombre. Ça fait de l'ombre. On peut pas le nier, ça fait de l'ombre. L'histoire du revenu pour les agriculteurs. Alors, de fait, les agriculteurs qui sont propriétaires des parcelles auront un complément de revenu par la production d'électricité. C'est vrai aussi, ça on peut pas le nier. Nous, ce qu'on remet en cause, c'est la viabilité vraiment sur le long terme. Et en plus, est-ce qu'on se trompe pas de paradigme ? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut vraiment aller chercher des revenus complémentaires aux agriculteurs ou est-ce qu'il faudrait remettre en valeur ce qu'ils produisent déjà ? Mais bon, soit, passons.
C'est un autre sujet.
C'est un autre sujet, on y viendra très vite. L'amélioration donc, qui est mise en avant, l'amélioration du rendement de la production agricole sur les parcelles qui sont donc dotées de panneaux photovoltaïques. Effectivement, il y a des petites études qui avaient été faites, des partenariats donc public-privé entre l'INRAE et des installateurs de centrales photovoltaïques, donc qui vantaient les mérites des installations qui montraient que la production était bien meilleure sous panneau que sans panneau. Sauf que voilà, depuis il y a plusieurs comités scientifiques qui ont pointé du doigt que c'était des études partielles, tronquées et que c'était la réalité n'était pas si simple, quoi.
Oui, parce que si on écoute les cultivateurs du coin, mais alors là je parle de la personne lambda qui est cultivateur depuis des siècles ici, j'ai toujours entendu dire que sous les fils électriques ça poussait moins bien.
Ben oui, il y a aussi cette question-là. En fait, on manque de recul parce que pour l'instant, on s'est lancé très vite dans des installations parce qu'il y a des objectifs qui ont été posés par l'UE et du coup, la France doit rattraper son retard. D'ailleurs, comme on a eu une amende de l'UE à cause du retard qu'on a pris sur l'installation des énergies renouvelables dans leur ensemble. Donc, on essaie de faire très vite. Et on se lance peut-être dans des choses un peu trop vite, justement. Les projets, donc je l'ai dit, explosent depuis 2021. Il y a beaucoup de comités scientifiques, de chercheurs qui du coup se penchent sur le sujet et se rendent compte en faisant des vraies études que il y a quand même aussi beaucoup de points négatifs et que même les points positifs qui étaient mis en avant se vérifient pas en fait. Que ce soit le meilleur rendement sur tout ça, voilà, on s'aperçoit que au final les rendements sont pas meilleurs et voire sont même inférieurs.
Non, puis les animaux, est-ce qu'une une vache ne produit pas moins de lait quand elle est sous des tensions?
Alors en plus oui, le problème c'est qu'on manque de recul, il y a encore trop peu d'études qui sont faites là-dessus.
C'est ça.
Le fait est que on se lance dans là tout ce qui est photovoltaïque, il y a tout le secteur agrivoltaïque où on va se concentrer sur la construction sur des parcelles agricoles, mais il y a aussi beaucoup beaucoup en France de construction sur des parcelles naturelles. C'est-à-dire sur de la forêt qu'on va couper, on va installer des panneaux sur des espaces naturels. Et donc les chercheurs se sont aussi beaucoup penchés sur ces espaces-là, sur l'impact de la biodiversité, sur la faune sauvage, les effets que ça pouvait avoir. Mais voilà, ils sont en train de chercher et on manque de recul sur tout ça. Mais en attendant, les installations, elles se font, quoi. Donc voilà, on va aller plus vite que la musique, et comme souvent. Et c'est ça qui nous pose problème. Nous, c'est pour ça que j'ai choisi de faire des recherches sur ce sujet-là, parce que c'est en train de passer plutôt inaperçu. En temps, une fois qu'elles sont en place, ces installations-là, on nous vend ça pour quelque chose de vertueux, parce qu'on veut, augmenter les énergies renouvelables, c'est très bien. Mais c'est pas parce que c'est labellisé énergie renouvelable qu'il faut faire n'importe quoi. Oui.
Chantons pour la terre, notre maison. Prenons en soin, c'est notre mission. Unis ensemble, faisons attention. L'avenir dépend de nos actions. Aujourd'hui c'est la grande journée. La planète bleue veut nous parler. Les océans. l'école jusqu'au continent. Gardons la terre pour longtemps. Chantons pour la terre, notre maison. Prenons en soin, c'est notre mission. Unis ensemble, faisons attention. L'avenir dépend de nos actions. Chantons pour la terre, notre maison. Prenons en soin, c'est notre mission. Unis ensemble, faisons attention. L'avenir dépend de nos actions.
Justement, les projets locaux, c'est important de s'y intéresser, mais est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on peut être au courant ? Parce que la vraie raison d'être au courant, c'est de savoir un peu comment ça va impacter l'endroit où on vit.
Oui. Alors, sur les projets locaux, ça dépend des sensibilités de chacun. Le fait est que, comme c'est des parcelles agricoles, les panneaux ne sont pas forcément très visibles, parce que ça peut être ça l'impact immédiat d'un panneau photovoltaïque. C'est effectivement, ce n'est pas quelque chose de naturel. On va le voir dans le paysage. Quand c'est des parcelles agricoles, souvent, ce n'est pas tout près des habitations ni de la route, donc on ne va pas forcément les voir beaucoup. Ça se peut quand même, ça dépend où c'est situé. Là, sur Xertigny, par exemple, ou la chapelle au bois, les projets très locaux, bon, c'est pas trop visible si on n'habite pas trop près. Après, c'est aussi dans le principe, nous, ça nous dérange. Moi, je trouve que c'est important dans le fait que, je trouve que c'est une forme de greenwashing. Encore une fois, on nous vend ça, regardez, c'est du renouvelable, donc c'est merveilleux. Ben non, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi, et surtout, les arguments qui sont donnés en faveur sont fondés sur pas grand-chose, en fait. Que ce soit si on veut parler du revenu des agriculteurs, parlons-en, mais parlons-en vraiment. Ouais. Proposons des vraies choses qui vont revaloriser le revenu des agriculteurs et pas juste aller grappiller un peu de sous en faisant encore autre chose.
Comme encore avec les éoliennes. Mais voilà. Les éoliennes, il y a aussi, j'ai entendu dernièrement, alors que le démontage coûtait horriblement cher, qu'on ne sait pas très bien qui doit le payer.
Ah sur le photovoltaïque, on a assez peu de regard sur ça, c'est pareil, ça reste du flou, ça reste, voilà, comme c'est des installations qui vont rester au moins 40 ans minimum, hein, parce qu'après ça peut être prorogé par le préfet, enfin voilà, donc on n'a pas vraiment de visibilité à long terme, mais c'est sûr que les énergéticiens y voient une aubaine, parce que c'est assez peu, c'est rentable en fait, c'est assez peu cher à installer, c'est moins cher que d'installer sur des toitures par exemple, ou peut-être il faut renforcer la toiture, enfin voilà, il y a des choses qui rentrent en compte sur le bâti, qui rentrent pas en compte là, des fois c'est des piquets plantés dans le sol, des fois il y a des piliers en béton, mais ça coûte moins cher et donc ça rapporte plus d'installer ça dans les champs que sur du bâti. Donc c'est une aubaine.
Mais je relève juste donc des piliers en béton, ce qui veut dire que des surfaces agricoles ou autres, on va bétonner encore et encore et encore.
Voilà, nous c'est notre grosse crainte, c'est que c'est de l'artificialisation. Alors on nous répond évidemment que ce n'est pas systématiquement des poteaux en béton. Des fois, c'est des piquets qui sont plantés dans le sol. C'est vrai, puisque les installations doivent être démontables. Mais, encore une fois, on manque de visibilité. Qu'est-ce qui se passera au bout de plusieurs décennies ? Dans quel état sera le sol ? Est-ce qu'on pourra à nouveau cultiver dessus s'il a été à l'ombre et si la qualité du sol s'est dégradée à tel point qu'il n'y a plus rien qui pousse dessus ? Qu'est-ce que ça donnera ? Encore une fois, on manque de recul. Donc oui, il y a ce risque de perte de terres agricoles qu'on ne peut pas se permettre parce que on en perd tous les ans et on essaie vraiment de se battre là-dessus et c'est pas possible. Donc oui, il y a ce risque-là d'artificialisation qui est indéniable, mais qui n'est pas du tout, pour le coup, qui est ignoré par les pouvoirs publics.
Oui, justement, j'aimerais savoir, là, peut-être c'est un renseignement qui sera à voir après, mais qui est derrière tout ça, en fait ?
Alors, il y a des entreprises qui installent des panneaux, donc qui arrivent avec des projets, font des propositions.
C'est comme les éoliennes, parlons du loup qui est en forêt.
Je veux dire, c'est les énergéticiens qui
les entreprises qui vont faire du business avec.
Oui, bien sûr.
Et qui sont supportées par l'État.
Oui, parce que d'un côté, l'État, il a des objectifs pour de production d'énergie renouvelable à atteindre d'ici des temps assez courts. Hein. On a des objectifs là pour 2050 qui sont là, qu'il faut respecter parce qu'on fait partie de l'UE et qu'il y a des règles à respecter. D'un autre côté, pour les collectivités aussi, donc pour les élus locaux, c'est aussi une aubaine. Parce que ça va rapporter de l'argent aussi aux collectivités, parce qu'il y a des taxes qui vont être payées, différentes formes de taxes. Alors, je ne suis pas une experte là-dessus, mais ça, clairement, les collectivités sont intéressées par l'argent que ça va leur apporter aussi à elles. Ces installations-là rapportent de l'argent aux communes sur lesquelles elles sont installées aussi.
Donc, c'est qui paye
C'est l'énergéticien.
L'entreprise qui a remonté ses panneaux va payer quelque chose.
Voilà.
Un petit sucre c'est d'orge, ça. Pas grand-chose, juste
c'est
une
ça.
Sucette.
Donc forcément, pour des petites communes comme on a dans les Vosges, c'est forcément intéressant. Et puis, donc, les agriculteurs aussi touchent des revenus tirés de... Enfin, les agriculteurs propriétaires, attention. Si on est en fermage, c'est moins simple.
Voilà.
C'est le propriétaire de la parcelle qui touche.
Ah oui, d'accord.
Donc, on a aussi cette crainte par rapport à tous les agriculteurs qui peuvent être en fermage. Comment ça va se passer? Alors, on parle de mettre en place des types de bails spécifiques. Bon, c'est encore assez flou.
Combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous avons vaincu nos frères, nous avons pillé leurs terres, nous nous sommes déployés. Abattus des millions d'arbres, sans remords ni palabres, des forêts entières de papier. Pour l'Empire nous travaillons, nous nous avilissons, pour quelques bouts de pain. Et pour lui nous croisons le fer, comme nos parents naguère, comme nos enfants demain. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous nous sommes trouvés un dieu d'or noir et de feu, de bronze et de papier. Nous lui avons dédié des temples, sacrifié pour l'exemple ceux qui n'avaient pas de papier. Nous avons, quand vint l'hiver, écrit sur des billets verts que Dieu protège l'Empire. Jusqu'aux épines des roses, donner un prix à chaque chose, même à l'air que l'on respire. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Tout ce que nous avons conquis, tout ce que nous avons bâti sur les ruines de nos pères. Ce royaume si fragile, géant aux pieds d'argile, redeviendra poussière. Soldat, un jour soudain, notre papier ne vaut plus rien. C'est tout un empire qui éclate. Nos montagnes de billets, nos tours, nos villes, nos palais, vulgaires châteaux de cartes. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'on devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'on devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Si l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier.
Oui, en fait, si je résume tout ce que je viens d'entendre, on est en retard, on
voilà.
fait partie des élèves
voilà.
derrière, voilà. au fond de la classe,
mauvais
près,
élève,
du, voilà, près du radiateur, et puis tout d'un coup on se réveille et c'est la folie quoi.
Voilà, et on fonce tête baissée et on, dans le mur, moi je dirais,
oui.
là, on va vers des choses qui vont surtout rapporter de l'argent aux énergéticiens, ça c'est sûr. On a trop peu de vision sur la fin des exploitations, qui démontera, comment ça se passera, est-ce qu'on démontera, enfin voilà. Dans quel état ensuite seront les sols en dessous. On a de plus en plus d'études qui montrent que c'est indéniable, la vie des sols est endommagée, que l'amélioration de rendement pour les agriculteurs, elle est fausse, il n'y a pas d'amélioration de rendement. Le bien-être animal, ça c'est vraiment l'argument plus bactère pour le coup, parce que le bien-être animal, les agriculteurs le prennent déjà en compte, ils sont légalement obligés dans le code rural de donner de l'ombre à leur bétail, donc c'est vraiment un faux argument. Et puis encore une fois, les revenus que l'agriculteur va toucher sont évidemment bien inférieurs à ce que l'énergéticien va toucher. On pourrait se poser la question de l'équité là-dessus. Et puis encore une fois, on se trompe de paradigme, il faudrait reprendre les choses à la base. D'accord, mais revalorisons les revenus des agriculteurs, mais pas comme ça.
Oui, je pense qu'on fera une seconde émission à ce sujet, parce que c'est vraiment intéressant. Et il y a quand même encore une autre info que j'ai, mais par hasard, parce que j'ai de la famille là-bas. En Suisse, c'est nouveau depuis, alors je ne sais pas depuis combien de temps, peut-être 5, peut-être 10 ans, je ne sais pas. Toute maison qui est construite doit être construite avec l'équivalent de ce qu'elle va utiliser en panneaux photovoltaïques.
Ah oui.
Ce qui est logique.
Oui.
Une école, hop, on met les panneaux qu'il faut pour faire fonctionner. Hop, une maison, hop, on met les panneaux qui fait. Ce qui fait que tout lieu où ça consomme, il y a une énergie qui est produite.
Oui.
Ce qui est logique. Et puis sur les toits de maison, limite, pourquoi pas, hein, j'entends, c'est pas. Voilà.
Oui, mais tout à fait. Mais, voilà, c'est sur le principe même, l'idée de base. Il y a peut-être d'autres surfaces sur lesquels on peut se pencher pour du photovoltaïque que les terres agricoles.
Oui.
Encore une fois, on a un potentiel sur le bâti qui est énorme et qui n'est pas assez exploité parce que les énergéticiens, ça ne les intéresse pas assez. Là, la manne des terres agricoles, c'est, comme j'ai dit, ça coûte beaucoup moins cher d'installer les panneaux à cet endroit-là, donc c'est une aubaine. Alors que oui, la vraie question, c'est tout le bâti, quoi.
Parce que ceux qui ont vraiment de l'expérience, alors le peu que je me souvienne, peut-être que j'ai une bêtise, mais le peu que je me souvienne, c'est au Texas, quelqu'un comme Elon Musk, qui a fait des immenses parcs, et ils se sont rendus compte qu'ils vont devoir les démanteler. Pourquoi ? Parce que ça augmente la température de la région de je ne sais pas combien de degrés, pour dire.
Oui, oui. Ben là-dessus, je n'ai pas de chiffres sur les températures. Là où on a de plus en plus de résultats, c'est sur le fait que les arguments qui sont présentés aux agriculteurs déjà sont basés sur rien. Ben, si on veut parler de la faune sauvage, c'est catastrophique. La faune sauvage, la vie des sols, qui est quand même, je rappelle, ce qui nous permet de manger, c'est catastrophique.
Et la biodiversité.
Mais c'est ça.
Parce qu'on va aussi dans ce sujet.
C'est ça.
Parce qu'à partir du moment où effectivement, il y a plein de choses. Enfin,
C'est un vaste sujet, hein, et forcément tout est impacté. C'est pour ça que sur le principe même, mais concentrons-nous d'abord sur le bâti avant d'aller chercher des espaces qui nous sont précieux. Les terres agricoles, c'est que ce soit de la pâture, que ce soit des champs cultivés, c'est des espaces qui sont précieux. Donc non, il y a d'autres choses à aller chercher avant. Et là-dessus, on peut rattraper aussi largement notre retard sur le bâti. Mais voilà, là, le nerf de la guerre, c'est que c'est un peu moins profitable. Donc,
Eh ben, je vous remercie beaucoup pour l'explication de ce sujet. Merci beaucoup, chères auditrices et auditeurs, de votre écoute. Et on vous dit à bientôt. Thank you.